Vint le jour où le vol se fit plus pesant, et le jeune homme que j'étais devenu entendit l'oiseau lui dire « Il faut rentrer chez toi ». C'était un matin de tempête, les vents soufflaient des quatre coins. Dans un tourbillon d'étoiles, ils m'ont vu descendre du ciel à cheval sur l'oiseau. Je me suis avancé vers eux, le visage balafré, un collier de plumes autour du cou. Bien que je n'aie pu prononcer aucune parole, ils ont su que je revenais de l'autre monde. Ils m'ont reconnu comme le porteur d'âme, le premier chaman.
Il est chaman, maître du temps, écuyer magistral, visionnaire, homme et cheval ensemble, et le voilà, écrivain, poète. Alors que le Théâtre Zingaro va bientôt fêter ses 40 ans d'existence, 40 ans de création équestre et de tournée mondiale, son fondateur, Bartabas, publie un recueil d'histoires fantastiques où l'homme et l'animal se confondent. Bonjour Bartabas.
Bonjour.
Écrire arrive assez tard dans votre vie d'artiste, ou alors on ne le savait pas?
Oui, je suis un jeune écrivain de 60 ans.
Mais ça vous a pris quand, comment? Enfin, ça vous a pris,
bon, comme tout ce que je fais de manière très instinctive. Il y a tout... Moi, je ne réfléchis pas, je n'ai jamais réfléchi dans ma carrière, ni celle de Zingaro. C'est-à-dire que tout d'un coup, je sens que c'est le moment de faire quelque chose, je le fais. Les chevaux m'ont appris à respecter cet instinct comme ça. Et donc, voilà, j'ai écrit mon premier livre il y a 2 ans, D'un cheval l'autre. Et puis là, pendant le confinement, je me suis remis...
Mais les mots, c'est quand même au moins aussi compliqué à dompter que les animaux.
Eh ben, j'ai trouvé le même plaisir. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de points communs entre le fait de dresser des chevaux, de monter tous les matins, de chaque matin chercher l'équilibre juste à cheval, chercher l'intention du geste, et l'écriture, où pareil, il faut chercher l'équilibre d'une phrase, le mot juste qui convient vraiment à l'intention que tu veux donner. Et donc je trouve que les deux sont un travail assez solitaire, en fait. Même à cheval, on est très solitaire. Et donc, il y a beaucoup de points communs. Par contre, c'est complètement antinomique avec le fait de diriger une compagnie, ça c'est vrai.
Alors justement, vous écrivez quand? De nuit, de jour, à la table, en voyage?
Je n'écris que quand les spectacles existent déjà. C'est-à-dire pendant les périodes de création, je ne suis pas capable de... Parce que ça me prend tellement la tête, c'est le cas de le dire, que je ne suis pas capable d'écrire autre chose. Puis je ne suis pas un écrivain, un vrai écrivain qui écrit tous les matins comme un exercice. Je suis cavalier, oui, ça, tous les matins, je suis à cheval, mais je ne pratique pas l'écriture comme un exercice tous les matins. Par contre, quand je suis dans un projet d'écriture, là, oui, ça m'envahit, mais je peux le faire quand, même si on est en tournée, le temps est réglementé. C'est-à-dire que je sais, voilà, ce n'est plus que du travail avec le spectacle, donc je peux aménager du temps pour écrire.
Mais vous écriviez avant quand même, sans avoir publié. Vous n'allez pas me faire croire que tout d'un coup, l'inspiration vous est tombée dessus et le style avec?
Non, j'écrivais des textes comme ça pour le spectacle, mais j'avais trop de respect pour la littérature pour me... On me penchait, souvent on m'avait demandé d'écrire un peu, voilà, ma vie, mon œuvre, comme on dit. Mais j'ai trop de respect pour la littérature pour le faire comme ça à la va-vite. Donc je m'étais toujours dit, je me mettrai à écrire le jour où je pourrais plus monter à cheval. On n'y est pas loin, je monte encore un peu, mais bon.
Mais vous écrivez un peu plus.
Voilà, j'écris un peu plus.
Je vous imagine écrire dans le silence total.
Non, pas forcément, au contraire même.
Ah oui.
J'écoute souvent la musique, la même d'ailleurs, souvent.
Donc pour ces cantiques du corbeau, vous écoutiez quoi?
Je crois que j'écoutais les nocturnes de Chopin, d'Alexandre Tarot d'ailleurs. Et je le remettais en boucle, en fait je ne l'écoutais pas vraiment, ça me berçait comme ça.
Alors je vous posais cette question parce qu'il me semble que le silence, Bartabas, fait partie de vos quêtes. Vous avez d'ailleurs intitulé un de vos spectacles « Entretien silencieux » et que ce livre, s'il ne s'est pas écrit dans le silence, je trouve qu'il se lit dans le silence parce que c'est un éloge de l'imagination et c'est une invitation à la méditation.
Ah bah, de toute façon, oui, écrire, c'est parler en silence. C'est-à-dire que... Et moi, je me suis toujours méfié des mots, souvent. Enfin, surtout dans ma profession, on a souvent affaire à... On a à s'exprimer dans le cadre des médias pour vendre un spectacle, donc, où le temps est minuté, où on te pose la question qui tue, où il faudrait 2 heures pour répondre, et tu as 4 secondes avec quelqu'un derrière la vitre qui fait... des grands gestes pour écourter la phrase. Donc j'ai toujours eu du mal, je me protégeais avec un discours tout fait, mais par exemple dans Un cheval l'autre, c'est la première fois que j'ai vraiment parlé de ma relation aux chevaux, quoi. En quoi elles m'ont construit de manière très intime, parce que l'écriture permet vraiment de choisir le mot très très juste, l'intention exacte de ce que tu veux exprimer. Quand tu es sur des sujets comme ça très sensibles, bon, faut être très précis.
Oui, dans ce livre d'Un cheval l'autre, vous écrivez « Ils sont mon savoir ». Comment le transmettre si ce n'est en apparaissant?
Oui, puis ils disparaîtront avec moi. En fait, ils disparaissent avec eux. D'ailleurs, mon savoir disparaît avec eux. Puisque tout ce que tu as investi dans un cheval, en fait, le cheval l'incarne. Et le jour où il disparaît, c'est ton savoir qui disparaît avec eux. Oui,
oui, justement, ce livre d'Un cheval l'autre, c'est un hommage à vos chevaux disparus depuis le premier, Zingaro, jusqu'à aujourd'hui. Mais du coup, il a droit à peine 2 pages, puisque votre cheval s'appelle Tsar.
Tsar, il a droit à un chapitre à la fin, oui.
Tout petit chapitre à la fin, parce qu'il est bien vivant encore.
Parce qu'il venait d'arriver quand il était là depuis assez peu de temps. Et puis, oui, c'est en quoi surtout les chevaux m'ont construit de manière intime, quoi. C'est-à-dire essayer de se souvenir, non pas de l'anecdote de la vie qui est pourtant rocambolesque du théâtre Zingaro, mais vraiment de comment on se souviendrait d'une personne. Ça peut être un regard, ça peut être une caresse, ça peut être une parole. Bon, les chevaux, c'est pas une parole, évidemment, mais justement, c'est une sensation qui passe par le corps aussi souvent. Donc c'est assez intime, c'est assez fragile aussi.
Il peut y avoir des dizaines de chevaux dans vos spectacles, mais vous, vous avez toujours un. C'est une passion quasi exclusive.
Ah non, non, il y a eu des spectacles, j'en avais 4 ou 5 sous ma responsabilité directe, enfin que je montais tous les matins.
Non mais votre
avec
cheval...
Avec maintenant, j'en ai plus qu'un, parce que bon...
Votre cheval, c'est pas Zingaro et son cheval, non, il y en a plusieurs, vous partagez.
Ah, bien sûr, bien sûr, bah, là, oui, bien sûr, bah, la compagnie, il y a toujours, il y a eu, je crois qu'à la fin du livre, il se décline, il y a plus de 120 chevaux qui ont traversé l'épopée Zingaro. Oui.
Mais quelques-uns sont restés gravés dans,
bien
dans
sûr,
votre mémoire.
Bien sûr, ça c'est ceux que j'ai, avec lesquels je me suis vraiment exprimé moi personnellement.
Oui, avec une passion quasi amoureuse.
Exact.
Alors aujourd'hui, vous publiez Les Cantiques du Corbeau. Alors là, il n'y a pas du tout de rapport à votre vie apparemment. C'est pas du tout autobiographique, mais me semble-t-il, le monde raconté, évoqué, convoqué même, c'est le vôtre dans la tête presque.
Oui, c'est déjà le rapport à l'animal, parce que c'est sûr que depuis plus de 40 ans que je travaille avec les chevaux, et quand je dis travail dans un échange, c'est pas juste de la contemplation, quoi. Donc je m'interroge sur vraiment en quoi on obéit au même moteur, en fait. Nous sommes des animaux. Donc ça m'intéressait. Bon, là, c'était un petit peu... Ça a été écrit pendant le confinement, d'ailleurs, où j'ai vu toutes ces images que tout le monde a vues aussi à la télévision, des animaux qui reprenaient possession de la terre des hommes, quoi. Hein, les dauphins qui s'approchaient du port à Marseille, les kangourous dans les rues en Australie. Enfin bon, c'était assez étonnant. Et ça te faisait bien ressentir qu'en fait, l'animal était là bien avant nous et sera sûrement là bien après nous. Et donc, et que nous ne sommes qu'une petite parenthèse, quoi. Donc c'est déjà pas mal d'humilité. Quand tu travailles avec des chevaux, t'apprends l'humilité. Et puis voilà, j'avais envie de faire un peu un pari littéraire, c'est-à-dire d'écrire à la première personne des contes, des chants. J'ai appelé ça des chants, d'ailleurs, en hommage au chant de Maldoror. Et avoir une écriture poétique, mais une poésie de l'action, c'est-à-dire pas psychologique. Et puis surtout, ce jeu est anonyme. C'est-à-dire, retrouver l'animalité en nous, c'est forcément être anonyme. C'est-à-dire s'oublier soi-même, moi, en tant que Bartabas, et tout d'un coup devenir un homme animal, en quoi je suis un animal commun à tous, en fait, son côté universel. Donc, la première personne n'est pas genrée, par exemple. Ça peut être il ou elle. L'espace spatio-temporel dans lequel il s'exprime n'est pas non plus très défini. C'est au bord de l'océan, mais on ne sait pas quel océan. C'est dans la forêt, on ne sait pas quelle forêt. C'est-à-dire comme un animal ne sait pas dans quelle forêt il est, quoi. Et voilà, c'était un peu une gageure au niveau de la gymnastique d'écriture, quoi.
Et ce sont des récits quasi légendaires. Alors, Bartabas, nous allons entendre des extraits de ces textes un peu plus longs que celui du début de l'émission, car il y avait hier soir au Théâtre Zingaro, dans le cadre du Printemps des Poètes, une soirée de lecture. Mais actualité musicale oblige, Cascadeur, il sort son 4e album intitulé « Revenant ».
Je traverse la nuit, les beautés s'enfuient, et les dangers mortels. Je portais vos ombres, me
Cascadeur, le musicien casqué sur RFI avec Les Ombres, titre de son nouvel album. Bartabas est aujourd'hui notre invité pour son livre Les Cantiques du Corbeau, alors que s'achève son dernier spectacle au théâtre Zingaro, le cabaret de l'exil où l'on croise bien des chevaux, des oies, des corbillards, des mariés et quelques fantômes au rythme de la musique yiddish. Est-ce que c'est un spectacle d'histoire ou de sentiment ?
Ah ben, je dirais...
C'est ça, je la question qui deux. Tue.
Non, bah, c'est-à-dire que c'est le thème de l'exil, un thème que je vais décliner pendant 4 ans. Donc j'avais envie de commencer par la judaïté, parce que bon, le peuple juif, c'est le peuple de l'exil par excellence, quoi. Et donc je suis parti d'une conférence de Bassevig Singer, qui, avec son humour dévastateur, explique pourquoi il continuait, alors qu'il avait le prix Nobel, il continuait à écrire en yiddish. Et voilà, avec une mauvaise foi qu'il caractérise en disant que la langue yiddish est la plus riche du monde, etc. Donc c'était un peu mon point de... Et puis ce rapport avec les fantômes, c'est-à-dire que sa langue, il devient un fantôme, sa langue est fantomatique. Et plus le fantôme est vivant, plus le fantôme est vivant, plus la langue est morte, ou le contraire. Et c'est toujours... c'est un peu le fil conducteur du spectacle.
Et qui sera donc qui est donc à un premier volet, voilà, d'une série sur l'exil.
Voilà, là, il se termine à la fin du mois, là, et je me remets en route pour le prochain, qui sera Comment être en exil dans son propre pays. C'est sur les travelers irlandais.
Alors, tous les ingrédients de Zingaro sont là dans ce spectacle, comme ils l'étaient dans les autres. C'est un peu votre patte. Et en même temps, vos spectacles sont uniques. Est-ce que si je vous dis sauvage et raffiné, ces deux adjectifs vous conviennent pour nommer ce que vous faites ?
Oui, mais on a dit aussi aristocrate et banquiste. Oui, bien sûr, ça joue surtout les cabarets. J'ai voulu restituer un peu des petites pointes de tous les spectacles précédents. On y retrouve le corbillard alambic, le chariot des cloches, à la fin les oies volantes. Enfin bon, allez, je m'amuse à ressortir un petit peu des petites citations, on va dire, de tous les spectacles depuis 40 ans. Donc
et ce sont toujours des spectacles sans frontières, parce que vous avez puisé dans les images et les musiques du monde, aussi bien en Asie, dans les steppes du Nord, au Japon, en Europe de l'Est. En cherchant toujours aussi à abolir la frontière entre l'homme et l'animal. Vous parlez, je crois, dans le précédent livre, de contamination entre l'un et l'autre.
Oui, c'est-à-dire quand tu dresses un cheval, tu fais venir un cheval dans ton univers, quelque part, tu le contamines, quoi. C'est-à-dire, lui te permet d'exister parmi les hommes, c'est l'histoire de Zingaro, c'est le cheval qui m'a permis d'exister parmi vous. Si je suis là derrière ce micro, c'est parce que ce cheval-là existait, tout simplement. Et en échange... Voilà, on lui doit d'autant plus d'écoute et d'attention qu'il n'a pas choisi de venir dans notre univers, quoi. Donc on lui fait partager notre univers, et lui-même n'est plus tout à fait un animal, devient quelque part un peu plus humain aussi.
Vous savez pourquoi il y a eu cette rencontre avec le cheval ? Pourquoi vous avez choisi de travailler avec le cheval ? Parce que jusqu'à présent, je m'étais raconté des histoires, que vous vous occupiez des chevaux parce que vous aviez une certaine défiance, par exemple, pour les mots et les humains. Et puis voilà que vous écrivez maintenant.
Oui, la vie est longue. C'est sûr que plus jeune, j'étais presque un peu autiste, quoi. Je parlais très, très peu. Les chevaux m'ont permis d'exister parmi les hommes, ça, c'est clair. Mais encore une fois, la parole exprimée là, souvent, sert à se protéger. Enfin, moi, quand des gens viennent me voir dans la compagnie pour se plaindre de quelque chose, souvent, ce qu'ils expriment par les mots est le contraire de ce qu'ils veulent vraiment dire. J'ai remarqué ça, souvent. Mais voilà, il n'y a pas de... Et donc l'écriture, pour moi, c'est quelque chose de complètement différent. Encore une fois, c'est une parole silencieuse, c'est une parole réfléchie. C'est la vraie parole, d'ailleurs, en fait. C'est la vraie parole, c'est celle qui reste, d'abord. Et puis c'est celle qu'on a pu maîtriser complètement, quoi. Et ça, c'est ça que je trouve passionnant dans l'écriture. C'est que tu peux vraiment maîtriser à la virgule près, c'est le cas de le dire, ton expression.
Alors, dans ce livre « Les Cantiques du Corbeau », il y a tout un bestiaire, des chevaux, mais aussi des licornes, des mangeurs de mort, des maîtresses hermaphrodites et des monstres marins.
Je poussais de petits cris dans les sous-bois qui bordaient l'océan, à la recherche des œufs d'albatros. À quatre pattes, je grattais l'herbe haute pour débusquer un nid. Lorsque j'ai cru entendre le vent gémir à travers le feuillage, mon cœur s'est retourné. Je ne connaissais pas ce chant. Un chant vaste et profond, comme un vol entre les vagues. Je me suis dirigée les oreilles en avant, guidée par les embruns, jusqu'à atteindre le bord de la falaise. C'est alors que j'ai vu, dans la crique en contrebas, se présenter sur la grève un corps sans fin, bercé par la houle, un monstre marin gigantesque. C'était un mysticète. L'animal était aussi haut qu'une montagne, si grand que je ne pouvais le couvrir du regard.
Ainsi débute le 12e chant de ces cantiques du Corbeau, lu ici par Anne-Marie Philippe. Il y a plein de monstres marins dans votre livre, Bartabas. Ça change un peu des chevaux, diraient les mauvaises langues. Mais je lis presque une fascination de votre part pour les monstres marins et pour le milieu aquatique.
Ah bah, déjà, je voulais dire que ça, c'est sorti d'une soirée qu'on a fait hier soir, des lectures du Cantique du Corbeau. Pour moi, ça a été très émouvant quoi, de voir d'abord magnifiquement interprété par Anne-Marie Garcin, Jean-Luc de Baptiste et Clément Hervieux-Léger. C'est très émouvant de voir ces textes dits, quoi, de voir une forme. Moi qui suis un homme de théâtre, mais qui normalement n'utilise pas de mots, de les voir vivre comme ça, c'est très particulier. Quoi. Parce que ça offre une résonance au texte qu'on n'avait pas forcément prévu. Enfin voilà, c'est assez étrange. Et donc
les monstres marins.
Les monstres marins, oui, bah évidemment. Déjà dans ce livre, il y a un hommage un peu au chant de Maldoror. Hein, donc il y a cette tournure, c'est un peu cette poésie de l'action, on va dire du muscle, quoi, qui m'intéresse beaucoup. Il y a pas. Mais oui, enfin, l'idée c'était quand même d'aller rechercher en soi son animalité et de voir en quoi on obéit au même moteur et surtout de s'imaginer. J'ai eu la chance de visiter la grotte Chauvet il y a quelques années et ça a été pour moi un choc émotionnel très 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 fort parce que déjà j'ai réalisé que l'écart de temps entre la grotte Chauvet et la grotte Lascaux est aussi grand que la grotte de Lascaux jusqu'à aujourd'hui. Quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'étirement du temps, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. Et moi, je me suis toujours posé la question, on connaît l'homme un peu moderne, on va dire l'homme préhistorique, mais pendant des siècles et des siècles, nous étions quelque chose qui n'était pas vraiment un animal, plus tout à fait un animal, et pas encore l'humain que l'on connaît. Quoi. Et cette période-là, ça me fascine, parce qu'en fait, en tant qu'animal, on n'est pas très doué, nous. On court pas vite. On vole pas, on nage pas sous l'eau.
Ah oui, vous trouvez qu'on est un peu médiocre.
Donc notre vie devait être très très courte et on devait se faire dévorer tout de suite, quoi. Et ça m'intéresse beaucoup, cette longue évolution. Qu'est-ce qui a permis, quel a été le déclic qui a fait de nous la proie la plus facile à devenir le super prédateur que nous sommes aujourd'hui, quoi. Il s'est passé quelque chose. Je sais pas d'ailleurs exactement quoi. Et ça, ça a été une interrogation pour moi parce qu'en fait, moi, je pense que tout a commencé le jour où déjà on a obligé la terre à produire. C'est le premier homme qui a planté sa pelle ou sa fange dans le sol et qui a semé une graine. Le premier acte d'agression, il est là en fait, quoi. C'est là, il est devenu le maître du monde. Et celui qui s'est mis aussi à élever des animaux, c'est-à-dire faire naître pour mourir, pour les tuer, pour se nourrir, c'est le deuxième, quoi. Avant, il était cueilleur-chasseur et après, il est devenu éleveur-agriculteur. Quoi. Et là, c'était le doigt dans l'engrenage, je pense, qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à la catastrophe que l'on sait.
Donc, ce livre est une rêverie sur les origines, sur la mythologie même de notre monde et une tentative, vous l'avez dit, je crois à peu près en ces termes, de réanimer le monde sauvage par la mythologie. Est-ce que c'est votre côté aussi un peu chaman ?
Oui, bah c'est sûr que j'ai tourné un film en Sibérie qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai croisé des chamans là-bas au fin fond du... Et c'est vrai que là, tu te rends compte de ce que ça veut dire vivre en harmonie avec une nature très, très dure, dont on n'imagine même pas, parce que c'est des millions, millions de kilomètres avec rien, rien, vraiment. Il n'y a même pas une feuille, même pas une brindille, que de la neige et des branches et de temps en temps un animal. Et donc, il faut arriver à vivre avec... à suivre la nature, quoi, qui passe de plus 40 à moins 70, parfois, quoi. Donc, c'est quand même monstrueux, quoi.
Et d'être dans ce rapport de... Est-ce que c'est un rapport de fusion à la nature? Parce que vous évoquiez tout à l'heure ce récit à la première personne, « je », mais ce « je » est pluriel, puisque bien vous sûr. Êtes à la fois un animal féroce, un prédateur, une proie, un homme, une femme, un poisson, un lémurien, etc. etc. Est-ce que c'est ce sentiment-là que l'on ressent quand on est proche des chamans et dans ces paysages-là?
Bah, c'est-à-dire que le chaman, c'est celui qui normalement, justement, met en contact l'humain qu'on est avec le monde animal et le monde naturel, quoi. C'est l'animisme, hein. C'est-à-dire que c'est une conception du monde qui fait que l'homme n'est pas plus important que le torrent, que l'arbre, que l'animal. Et ça, moi, si je devais être croyant, c'est pas d'ailleurs une religion, c'est plutôt une conception du monde, ça serait plutôt celle-là. C'est-à-dire, c'est d'abord une grande humilité. Et je pense d'ailleurs que nos capacités d'observation, maintenant techniques, que ce soit dans les documents, l'observation des animaux ou de la nature, on n'en est qu'au début de commencer à comprendre des choses. On sait maintenant qu'il y a un langage, même des arbres entre eux. On sait qu'il y a, voilà, on sait que les animaux sont capables de compassion entre des espèces différentes. On sait qu'il est, enfin, on n'est qu'au début de, je pense, de la découverte de le monde animal et végétal est riche d'échanges, quoi, qu'on n'imagine même pas, je pense.
Et on saura un jour. Comment parlent les chevaux? Entre eux, au moins.
Oui,
vous le savez un peu, peut-être.
On le sait déjà, hein, on commence à le savoir, oui, par l'observation du comportement. C'est-à-dire que, de manière innée, par exemple, les chevaux sont les seuls dont le mâle dominant d'un troupeau, les chevaux sauvages, ne se nomment pas par le combat. C'est-à-dire que, dès la naissance, les chevaux qui les entourent ont un comportement soumis vis-à-vis de lui qui lui font comprendre qu'il va être le dominant.
Quelle chance. Les cantiques du corbeau, chant 21, intitulé « Ce maison ».
J'ai imploré la lune d'appeler mon sexe à se dresser vers elle et me suis allongé face à la glaise dans la fosse que j'avais creusée de mes mains. Je voulais être en elle, comme le poisson dans l'eau et l'oiseau dans le ciel, la sentir m'enlacer et m'entraîner dans les profondeurs. En pénétrant la chair brunâtre, ses veines d'eau et son odeur de bête, les artères en fusion, j'ai expulsé mon sperme comme une lave interne. Voyage originel, corps à corps atomique dans un volcan inversé, durant le bref instant de ce coït terrestre, j'ai cru m'approprier l'éternité du monde.
Extrait des Cantiques du Corbeau de Bartabas, lu ici, donc c'était hier pour le Printemps des Poètes, par Jean-Luc de Baptiste. Voilà donc de la poésie tellurique, faire l'amour à la terre, c'est de l'ordre de l'expérience. Presque.
Oui, bah c'est justement pour illustrer ça, c'est la domination de la terre, c'est l'agriculteur, quoi. C'est vraiment c'est le début du viol de la terre, je crois. On parle de l'agriculture bio, mais le mal est déjà fait. C'est-à-dire déjà obliger la terre à produire, c'est déjà un viol, quoi.
Alors, ce livre est composé de 22 chants en hommage au chant de Maldoror, donc de Lautréamont, de la naissance au dernier voyage. C'est donc une sorte de voyage initiatique et de chevauchée fantastique tout à la fois. On n'a pas dit pourquoi le corbeau, les cantiques du corbeau, Bartabas.
Oh bah, pour plein de raisons. Cette anecdote de mon grand-père qui me lisait ses contes, parce que les contes pour enfants ont quand même quelque chose. Enfin, d'ailleurs, pour enfants, les contes de Grimm, je ne sais pas s'ils sont vraiment pour enfants, mais c'est souvent des animaux qui parlent. Pendant longtemps, j'ai cru que animaux s'écrivait M-O-T. C'est-à-dire des animaux doués de parole, quoi. Et quand j'étais tout gamin, donc c'est assez... Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à ça, aux sourcils de mon grand-père qui
oui, vous s'agitait quand, des corbeaux quand il racontait...
quand il racontait ses histoires. Et puis bon, le corbeau, c'est celui qui voit les hommes mourir, c'est celui qui se nourrit de la vie et de la mort, hein, puisqu'il est en même temps charognard et... Voilà, et puis c'est celui qui commence à tuer en mangeant les yeux aussi. Donc c'est, enfin bon, c'est beaucoup de choses dans la mythologie.
Ce grand-père, vous lui devez beaucoup. Parce que vous n'êtes pas du genre à raconter votre vie, Bartabas, non. Et ce livre-là commence exactement par cela, par ce grand-père qui vous raconte des histoires d'animaux et qui ont l'air de vous impressionner beaucoup.
Bah, disons que mon grand-père, malgré lui, a été très important pour moi. C'était un grand chirurgien, professeur Seyé, et qui avait préparé toute sa retraite pour écrire. Il avait, et puis il a eu deux AVC consécutifs et il a perdu la parole. Et donc il a dû réapprendre à parler et à écrire. Quoi. Et c'est vrai que dans ma famille, quand j'ai décidé de, je voulais être en contact avec, les chevaux. J'avais un échange avec lui qui était assez particulier parce qu'il pouvait plus parler. Moi, j'étais tout gamin, hein, j'avais 6-7 ans. Et voilà, et je me souviens de par le regard, presque de manière animale, d'avoir un espèce de, d'échange avec lui qui était très particulier. Quoi.
Et il ne pouvait pas écrire et vous avez écrit.
Oui, si on...
Psychologie de studio. Si vous avez dompté les chevaux, Bartabas, est-ce que vous en avez aussi profité pour apprivoiser la mort, justement ?
Ah bah oui, bah de toute façon, tout artiste ne fait que parler de la mort. Hein. Je pense que c'est quand même le problème des humains. C'est peut-être ce qui nous différencie fondamentalement des animaux. Hein. C'est d'avoir la conscience depuis pratiquement la naissance de la représentation de la mort et de la conscience de n'être qu'une poussière dans l'univers. C'est ça notre problème. Hein. C'est pour ça que nous avons inventé Dieu. C'est pour ça que nous avons inventé l'art. Quoi. C'est pour tenter de répondre à ces questions et continuer d'exister au-delà de nous-mêmes, plus ou moins, je pense. Mais à la fin du le dernier chapitre, voilà, c'est sur la notion même de se priver volontairement de la vie. Je pense que c'est l'acte suprême de domination de l'homme, c'est qu'il s'arroge même le droit d'arrêter sa vie. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais, à ma connaissance, il n'existe pas d'animaux qui se suicident. Un animal peut se laisser mourir de tristesse, de peine, éventuellement, ça c'est vu, mais qui décide brutalement, volontairement d'arrêter la vie. Il n'y a que l'homme qui s'arroge même ce droit. Quoi.
Et c'est un droit exorbitant ?
Bah, exorbitant, oui, je pense que l'homme s'est arrogé des droits qu'il ne peut même plus assumer, je pense. Mais...
En tout cas, vous semblez avoir la mort, non pas la mort, mais la perspective de la mort tranquille, au crépuscule, irradiée de douceur. J'ai su bien mourir en prenant tout mon temps.
Voilà.
Ce sont les derniers mots de votre livre. Merci beaucoup, Bartabas. Les Cantiques du Corbeau, votre merci livre, est publié chez Gallimard, de même que le précédent d'un cheval l'autre. Et pour voir votre spectacle, ben, il faut se dépêcher, parce que le Cabaret de l'Exil se joue jusqu'au 17 mars, c'est-à-dire...
Ça sera pour l'année prochaine, parce que là, c'est tout complet.
C'est tout complet, alors ce sera pour l'année prochaine, le deuxième tome, le deuxième spectacle sur l'Exil. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin, on se retrouve demain et sur Internet.